Bonjour à chacun de vous. Je vous remercie. Je remercie aussi Thierry Huzer de m'avoir invité, enfin de nous avoir invités et de nous avoir donné l'occasion de vous apporter la méditation de la part du Seigneur. Avant cela, je veux vous transmettre les salutations de l'Église méthodiste de Montélimar, à laquelle nous appartenons et que nous connaissons depuis une vingtaine d'années maintenant. À Montélimar, je suis éducateur dans un centre d'hébergement pour personnes désocialisées et je m'occupe plus particulièrement de l'accompagnement dans le cadre du RSA et avant c'était le RMI. J'ai eu la mauvaise idée d'attraper un rhume il y a quelques jours, alors je vous prie de m'excuser si ma voix est un peu éraillée ou si elle-même elle tombe en panne. Je voudrais prier pour commencer cette méditation. Seigneur, merci de nous rassembler autour de ta personne. Merci aussi de nous donner ta parole. Je voudrais te demander de m'aider à transmettre l'esprit de cette parole, afin qu'il puisse nous guider dans notre marche de tous les jours. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de nous éclairer par cette parole et de nous conduire vers l'éternité. Amen. La première lecture que je vous propose se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18. Ce n'est pas une lecture que je vais méditer, mais elle a aussi son importance. Donc Luc, chapitre 18, versets 18 à 23. C'est une rencontre entre Jésus et une personne dont on a déjà souvent parlé. Dans cet évangile, il est décrit comme étant un notable, dans d'autres évangiles comme un jeune homme. Alors un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, nous dit Luc, il fut profondément attristé car il était très riche. Voilà donc un homme qui a tout et qui se rend compte qu'il lui manque l'essentiel, la vie éternelle. Un homme qui connaît la sécurité que peut donner une grande richesse, mais pourtant que la vie après la mort inquiète. Et voilà ce que Jésus lui propose pour obtenir cette vie éternelle. Échanger la sécurité que lui donnent ses richesses contre la précarité d'une vie de disciple. Et Jésus l'invite à donner, à partager jusqu'à ne plus rien posséder pour retrouver un trésor dans le ciel. Précarité et sécurité, deux aspects de la condition humaine qui s'imposent aujourd'hui à nous, avec de plus en plus d'insistance, j'ai même envie de dire avec violence, dans les médias, mais aussi à notre porte. Je pense à ces populations que nous voyons à la télévision qui doivent abandonner leurs terres pour fuir la famine. Je pense à ces personnes âgées qui doivent fouiller les poubelles pour se nourrir. Là, on est en France. Et puis je pense, d'autre part, à ces gens qui possèdent 36 maisons, des hectares de propriétés, et qui vivent dans l'opulence et même qui gaspillent avec insolence. Voilà ce que nous voyons en ce début de 21e siècle. Le mot précaire, c'est un mot qui vient du latin, qui signifie en latin on disait précarius, et qui signifie quelque chose qui a été obtenu par la prière. Et comme c'est quelque chose qui avait été obtenu par la prière, c'est quelque chose qu'on pouvait perdre, que celui qui avait octroyé pouvait retirer à tout moment. Et avec le temps, le sens du mot a glissé. Et maintenant, vous savez ce que ça désigne. Hein. C'est une réalité dont on ne peut garantir ni la solidité, ni la durée. C'est pour ça qu'on parle d'un emploi précaire, ou bien d'un abri précaire, et ainsi de suite. L'important, c'est que vivre dans un milieu où règne la précarité, c'est être obligé de vivre avec des ressources, et en particulier des ressources alimentaires, dont on ne peut garantir la persistance et qui sont insuffisantes pour pouvoir en mettre de côté. Et ceux qui ont connu la précarité seront d'accord avec moi pour dire qu'elle entraîne une inquiétude quasi permanente face à l'avenir. Comment répondre aux besoins futurs de soi-même ou de notre famille? Comment préparer l'avenir quand on a les mains vides? Oui, la précarité est une source d'angoisse. Elle rend impuissant face à l'inconnu de l'avenir. Dans des pays comme le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens ici. Oui? Je suis votre beau, hein? Donc, dans des pays comme le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire, la grande majorité des habitants vivent dans une précarité plus ou moins grande et presque tout le temps. Les rendements agricoles sont bas, il y a un taux de chômage élevé, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'allocation chômage, en tout cas pour la grande majorité, peut-être pour les fonctionnaires, mais pour la grande majorité des habitants, ça n'existe pas. Et il n'y a pas d'assurance vieillesse. C'est pour ça que la solidarité familiale et même tribale est très importante, indispensable. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des enfants, parce que ce sont les enfants qui vont assurer les vieux jours. Pour les personnes qui vivent dans la précarité, le premier objectif, c'est la survie et c'est rechercher un début de sécurité. La Bible nous montre que la précarité est une conséquence directe de l'entrée du péché dans la création. Elle apparaît dès la rupture de l'alliance de l'homme avec son Dieu. Et là, je vous invite à lire donc les premiers chapitres de la Genèse. En Genèse 3, verset 10, voilà la première phrase que dit Adam après avoir désobéi. Voilà ce qu'il dit à Dieu. « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. » « Car je suis nu, et alors je me suis caché. » Car je suis nu. Aussitôt après avoir rompu la relation qu'il entretenait avec son Créateur, l'homme prend conscience de sa vulnérabilité. Et cette prise de conscience suscite la peur et le besoin de se dissimuler. Dieu, c'est étrange, mais c'est ça, Dieu est devenu une menace pour l'homme et sa femme. Ils ne se sentent plus en sécurité. Et cette précarité va aussi s'installer, donc on la voit à la verticale hein, dans la relation à Dieu, mais elle va aussi s'installer dans la relation de couple, puisque Dieu dit à la femme, « Ton désir se portera vers ton mari, mais il te dominera. » Autrement dit, une relation qui devait être une relation de confiance mutuelle et d'amour va devenir une relation de méfiance, une relation conflictuelle, une relation qui pourra se rompre, donc qui ne sera plus garantie. Et vous savez aussi une autre des conséquences du péché, l'homme est condamné à travailler le sol pour se nourrir sans avoir l'assurance que tous ses efforts seront récompensés. C'est ce que Dieu dit à Adam, le sol est maudit à cause de toi, au verset 17 et 18 de ce chapitre 3. Le sol est maudit à cause de toi et c'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture et il te produira des épines et des chardons. La sécurité alimentaire qui avait été promise à Adam et Ève dans un jardin où la nourriture abondait est remplacée maintenant par le fruit précaire et aléatoire d'un labeur éprouvant. On pourrait penser que ça va s'arrêter là, mais non. Quand on lit la suite du texte, voici ce qu'on trouve. Après le meurtre d'Abel, l'homme et la femme vont encore faire une expérience supplémentaire. Dieu leur avait parlé de la mort, mais ils ne l'avaient pas touché du doigt. Et devant le cadavre d'Abel, Caïn et ses parents se rendent compte que la mort peut survenir à tout moment, et puis de la simple volonté d'un autre homme. Et en plus, que cette mort, elle est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Et d'un coup, j'imagine que d'un coup, pour Caïn et pour ses parents, d'un coup, c'est toute leur vie qui devient précaire, qui devient fragile. Et le meurtrier va voir sa culpabilité et la peur d'une vengeance le pousser dans l'errance. Et je vous pose la question, qu'est-ce que l'errance, sinon le paroxysme de la précarité? Et c'est d'ailleurs pour ça que Caïn dit à l'Éternel, « Mais mon châtiment est trop lourd à porter. Je serai errant et fugitif sur la terre, mais si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Dieu écoute ce que lui dit Caïn. Il contient son angoisse, il ne la supprime pas, mais il la contient en lui promettant d'intervenir avec rigueur pour stopper la spirale de la vengeance qui risque de s'installer sans fin. Et Dieu dit à Caïn, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Dans sa grâce, Dieu marque Caïn d'un signe qui va attester que ce meurtrier est sous sa protection. Et il garantit ainsi une sécurité relative à Caïn dans son errance. Voilà ce que nous dit le texte biblique. En voulant être comme Dieu, l'homme a perdu la sécurité du jardin d'Éden pour se retrouver vulnérable, condamné à une vie difficile et précaire. La sécurité maintenant. Le mot sécurité vient aussi du latin, d'un mot securus, alors je ne sais pas si je prononce bien, qui signifie exempt de soucis. Alors vous savez que la sécurité peut, dans certains domaines, être mesurée de façon objective. Les lieux publics comme cette église sont visités régulièrement par le service des pompiers pour vérifier que toutes les conditions de sécurité sont requises. Mais la sécurité, avant tout, c'est un sentiment. C'est celui d'une personne ou d'un groupe qui pense être à l'abri du danger, de tout risque qui pourrait menacer sa vie, bien sûr, mais aussi ses biens et ses activités. Comme exemple, que c'est vraiment simplement un sentiment, la sécurité, je pense à ce qui s'est passé au Japon au début de cette année. C'est un des pays les plus riches du monde. Et vous savez que du jour au lendemain, il y a des milliers de gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. Leur sentiment de sécurité avait été fondé pendant un certain temps et du jour au lendemain, ils n'avaient plus de fondement. Les sociétés qui vivent dans la sécurité sont celles qui ont réussi par des moyens politiques, économiques, techniques à maîtriser leur environnement et à s'organiser. Et ainsi, elles peuvent avoir des ressources suffisantes et des ressources stables. La nourriture, bien sûr, mais aussi l'énergie, le logement, les soins médicaux, l'instruction. Et grâce à toute cette abondance que ces sociétés ont réussi à accumuler, elles peuvent se protéger d'un certain nombre de risques, comme la famine, les épidémies, les intempéries. Et elles peuvent regarder l'avenir sans inquiétude. Je crois que je peux dire, sans trop me tromper, que nous, Français, que les habitants de la France, ont dans leur grande majorité le privilège de pouvoir vivre en sécurité. Et j'en donnerai simplement pour exemple le nombre d'assurances que nous pouvons et même que nous devons nous payer pour garantir cette sécurité. Nous avons l'assurance sur la maladie, notre chère Sécu. Nous avons l'assurance sur la vieillesse, le chômage, les accidents, sur le vol, sur la perte de nos papiers, de nos bagages. Et nous avons même, et en plus elle est obligatoire, nous avons même une assurance sur les bêtises de notre chien. Voilà, c'est des choses toutes simples, mais qui sont vraies pourtant. Et pour ces sociétés d'abondance, comme celle dans laquelle nous vivons, le premier objectif, ce n'est évidemment plus la survie, mais c'est la hausse du niveau de vie, une hausse qu'on voudrait ne jamais voir s'arrêter, c'est-à-dire plus de biens matériels, plus de biens culturels, plus de confort, plus de pouvoir, plus de choix, plus de plaisir. La quête de la sécurité, comme la précarité, elle a commencé, elle aussi, dès le début de l'humanité. Dès que l'homme a pris conscience, après le péché, que sa situation était devenue précaire, il est parti à la recherche de la sécurité. Mais il l'a fait de deux façons. La première façon, la première voie qu'il a choisie, c'était celle de la violence et de l'union. Après le meurtre de son frère et la malédiction de Dieu, Le texte nous dit, donc en Genèse 4, que Caïn décide de bâtir une ville pour mettre fin à son errance et pour se protéger. Vous savez que dans une ville, pour que la vie soit possible, il faut mettre en place une politique et des lois. On ne fait pas ce qu'on veut dans une ville. Et la politique et les lois qui ont été mises en place par la lignée de Caïn sont résumées dans la vie de Lémec, un des petits-fils de Caïn. En Genèse 4, verset 23, voilà ce que dit Lémec. Il s'adresse à ses deux femmes. Il dit « J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour ma plaie. » Caïn sera vengé 7 fois, Lémec 77 fois. Autrement dit, Lémec dit qu'il faut conquérir la sécurité en s'imposant par la force et la violence. Une violence suffisamment disproportionnée pour être dissuasive. Mais ce n'est pas tout. Lémec a compris que c'est en s'alliant aussi qu'on peut retrouver la sécurité. Pourquoi ? Parce que quand on s'allie, on devient plus fort et on limite les conflits. Et c'est pour ça que Lémec a pris deux femmes. On ne va pas faire la guerre avec les familles de ces femmes et avec les tribus de ces femmes. En même temps, le texte nous dit, c'est un tout petit passage, le texte nous dit que l'homme a découvert que s'il voulait vraiment être en sécurité, il fallait aussi qu'il maîtrise son environnement. Et c'est un autre petit-fils de Caïn, qui s'appelle Tubal-Caïn, qui devient capable, le premier, de fabriquer des instruments en bronze et en fer. Alors, je pense que ces instruments, ce sont certainement des outils et des armes, parce que les outils et les armes servent à démultiplier la force humaine. Voilà, malheureusement, la sécurité qu'offre cette première voie qu'ont choisi les hommes dans la lignée de Caïn est une fausse sécurité. Tout simplement parce qu'elle est d'abord réservée aux forts et qu'elle se met en place au détriment des faibles, et puis ensuite parce qu'elle ne peut être qu'éphémère. La violence appelle une violence plus grande et le vainqueur d'aujourd'hui tremble déjà en pensant au plus violent qui va venir le faire dégager. Moi, ce que je constate, c'est que des milliers d'années après, l'homme n'a pas renoncé à cette façon d'agir. L'humanité, aujourd'hui encore, suit l'exemple de Caïn et de Lémec, au point que nous pouvons dire qu'elle remplit la terre d'actes de violence. Mais voilà, le texte biblique nous dit que dans la lignée de Seth, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu emboîter le pas à Caïn et à ses descendants. Ils ont refusé la voie de la violence. Eux, ils aspiraient à une véritable sécurité pour tous et une sécurité qui dure. Et donc, ils ont cherché à rétablir la relation avec Dieu. Ils ont attendu, nous dit le texte, la venue d'un homme qui les consolerait, qui les rassurerait, on va dire, qui leur permettrait de se dégager de cette malédiction. Ainsi, je vais lire là quelques versets, à partir de Genèse 4 jusqu'à Genèse 6. Le texte nous dit, en Genèse 4, verset 26, « C'est à l'époque de la naissance du fils de Seth qu'on a commencé à prier l'Éternel. » Et au verset 22 du chapitre 5, « Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut. » Au verset 29 de ce même chapitre 5, Lémec, alors c'est un autre que le petit-fils de Caïn, Lémec appela son fils Noé, ce qui signifie consolation, parce qu'il se disait « Celui-ci nous consolera de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. » Et enfin au chapitre 6, au verset 9, voilà la description de Noé qui nous est faite. « Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. » Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Pour ces hommes et leurs familles, la violence est une voie sans issue que Dieu condamne. Elle ne fait qu'aggraver la précarité de leurs conditions. Et c'est de Dieu qu'ils attendent un adoucissement de leur peine, une libération de leurs craintes et une grâce. La suite des événements que nous connaissons bien, le déluge, va leur donner raison. Alors que l'eau du déluge submerge toute la terre, le récit biblique nous montre une famille en sécurité sur un bateau. En sécurité parce qu'elle a obéi à la parole de Dieu et qu'elle l'a prise au sérieux. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. La suite de l'Ancien Testament va délivrer le même message, adressé tantôt à tout le peuple juif, tantôt à des individus. L'Éternel est un Dieu qui sauve. C'est auprès de lui qu'il faut chercher la sécurité et non pas en l'homme. Et le Nouveau Testament va nous révéler le Dieu sauveur. Il ne va pas seulement nous annoncer un Dieu qui sauve, mais va nous révéler le Dieu sauveur, Jésus. Je reviens au 21e siècle. Je crois que l'humanité est arrivée à une période charnière de son histoire. Notre monde se trouve face à un avenir qui s'annonce difficile pour deux raisons, à mes yeux. La première raison, elle découle de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la voie choisie par la lignée de Caïn. Je crois que vous êtes conscient avec moi que la technologie et la maîtrise de l'énergie a permis aux hommes de mettre en place un modèle de développement qui est en train de se généraliser à toute la Terre. Tous les peuples de la Terre veulent connaître le développement que connaissent actuellement les pays riches comme l'Europe, comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Mais en même temps, nous constatons que ce modèle de développement est aussi générateur de précarité. Une précarité toujours plus grande et pour toujours plus de monde, parce qu'il est violent et injuste. Et parce qu'il est basé sur un système d'alliance entre puissants. Et en plus, ce modèle de développement que le monde est en train de suivre détruit la nature, la dévaste au lieu de la respecter. Et comme au temps de Noé, le système de développement qui est là sous nos yeux et dont nous profitons est corrompu et il remplit la terre d'actes de violence. Il ne fait pas que ça, heureusement, mais il le fait. La deuxième raison qui me fait penser que notre monde est face à un avenir difficile, c'est la question de la démographie. Quand je suis né en 1953, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la Terre. 30 ans après, en 1983, il y en avait 5. Et vous savez que cette année, la population est passée à 7 milliards. Et les démographes nous disent que ça va se stabiliser vers 2040 ou 2050. Alors là, ils hésitent entre 9 et 10 milliards. Comment est-ce que vous voulez nourrir correctement 9 milliards d'êtres humains en 2050, c'est-à-dire dans 40 ans, alors que déjà aujourd'hui, on sait qu'il y a presque 1 milliard, 850 millions d'êtres humains qui souffrent de sous-alimentation chronique. Et ce n'est pas tout. Selon les spécialistes, il est à peu près certain que dans ce futur très proche, donc dans 40 ans, la moitié de ces 9 milliards d'êtres humains qu'il y aura sur la Terre vivra dans de grandes villes, dans des villes monstrueuses, comme c'est déjà le cas pour Shanghai, pour Calcutta, pour Le Caire, pour Mexico, pour Los Angeles ou pour Lagos en Afrique. Comment est-ce que vous voulez loger, fournir le minimum vital à tout ce monde, éviter qu'il s'entasse dans des bidonvilles où règne déjà la violence comme nous le voyons? J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui dit que là, vers 2050, il y aura quasiment une seule ville de Lagos jusqu'à Abidjan. C'est-à-dire que tout le long de la côte ouest de l'Afrique, les villes vont finir par tellement s'agrandir qu'elles vont se toucher les unes aux autres. Et pareil, en Afrique centrale, il y aura des villes qui vont se bâtir le long de la faille, là, partant presque du Caire jusqu'à Nairobi. Ces millions de gens ne vont pas accepter de vivre dans des conditions précaires toute leur vie. Ils n'accepteront pas de mourir de faim sans réagir. Surtout qu'ils vont avoir la possibilité de voir sur leurs écrans tous les privilèges dont les minorités qui les dirigent bénéficient. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que les manifestations et les révolutions qui sont en train de se passer sous nos yeux sont déjà les prémices de ces révoltes contre l'injustice, contre la précarité, contre la faim. Alors bien sûr, les scientifiques nous disent, on va trouver des solutions techniques à pour résoudre tous ces problèmes. Moi, je suis prêt à les croire, mais je crains que ça soit au niveau politique que ça coince. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Les chrétiens sont avec les non-chrétiens impliqués dans le fonctionnement de ce système de développement. Et ils sont responsables d'une certaine façon. Et il y en a qui disent, mais est-ce que nous avons seulement le choix ? Est-ce que nous avons d'autres possibilités qui se présentent à nous ? Il n'y a rien à faire, nous n'avons rien à faire en tant que chrétiens que simplement d'annoncer l'Évangile, car de toute façon, ce monde est appelé à disparaître. Et puis Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous ? Alors c'est vrai que notre mission première, c'est d'annoncer l'Évangile, parce que le Christ revient, mais nous devons aussi le vivre. Dieu est venu vivre avec les hommes, nous ne devons pas l'oublier. Jésus, qui est notre modèle, a fait des choix, et en particulier, il a fait le choix de vivre dans la précarité et dans la pauvreté. Il n'avait pas de maison à lui, il a consacré tout son temps et toute son énergie à soulager la souffrance des exclus et des faibles, et il a même donné l'exemple jusqu'à offrir sa vie pour les autres. Et puis, dans son message, il a proclamé d'autres principes que ceux de notre monde. Il a dit, ne résistez pas à celui qui veut vous faire du mal. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il a dit aussi, les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. Je crois que ces paroles nous placent devant un choix individuel, mais aussi un choix communautaire, soit partager, soit nous crisper sur nos possessions, soit vivre dans la logique de ce monde, soit vivre selon les principes du Christ. Et c'est sur ce point que j'ai lu l'histoire du jeune homme riche, au début, parce que je crois que la vraie question qui se pose à nous face à la précarité, à la misère dans laquelle se trouvent tant de gens ici-bas, ce n'est pas « qu'est-ce que nous pouvons faire ?» parce que les idées ne manquent pas. Il y en a plein, les revues des ONG, on en trouve dimanche après dimanche sur la table qui est à la sortie du culte, dans cette église, mais aussi dans d'autres églises. La vraie question qui se pose à nous, c'est celle-ci, c'est d'où vient ma sécurité ? Un peu du Seigneur et beaucoup de ce que je possède ? De mes droits, que j'ai bien l'intention de défendre ? Je crois que si je prétends que ma sécurité vient de Dieu, pourquoi est-ce que alors j'aurais à craindre la précarité ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me départir d'une partie de ce que je possède pour l'offrir à ceux qui sont dans le dénuement ? Mon temps, mes forces, mes connaissances et mes biens. Oui, je crois que la vraie question qui se pose à nous, ce n'est pas « qu'est-ce que je peux faire ?» mais « qu'est-ce qui m'empêche d'agir ?» Et en quelque sorte, c'est la question que Jésus a posée aux jeunes hommes riches. Il ne lui a pas dit comme ça verbalement, mais c'était ça qui était derrière sa pensée. Qu'est-ce qui a empêché le jeune homme riche de le suivre, de suivre Jésus ? Et je crois que si nous arrivons à répondre à cette question, alors nous saurons comment être dans le monde sans être du monde. Et je terminerai en lisant un passage dans le prophète Ésaïe, au chapitre 58. Vous savez qu'Ésaïe est appelé le cinquième évangile. À partir du verset 2, c'est Dieu qui parle à son peuple et il dit « Il me recherche chaque jour ». Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et qui n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements, ils veulent être près de Dieu. Et ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde ? Et Dieu leur répond, par la bouche d'Ésaïe, « Mais au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et en querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui, que vous ferez entendre vos prières là-haut.
Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Non, dit l'Éternel, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres et sans-abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, et c'est ne pas se détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression et les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres. Et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi, et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera, et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à prier. Seigneur, aide-nous à mettre toute notre confiance en toi, parce que tu es la source de notre véritable sécurité. Les biens que tu nous as donnés, tu nous les as donnés pour vivre, mais pas pour qu'ils nous rassurent, pas pour qu'ils nous fortifient et nous rendent orgueilleux. Apprends-nous à partager, apprends-nous à voir les besoins qui sont autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon les principes que tu as toi-même enseignés par ta façon de vivre quand tu étais ici-bas. Au nom de Jésus, Amen.